François, viens. Bonjour à tous. Ce matin, on a le privilège d'avoir François Vattier qui a préparé une prédication et qui va prêcher ce texte pour nous. Merci beaucoup, François, d'être là. C'est une joie de t'accueillir. Donc, François, toi, tu es pasteur en Haute-Savoie, à Annecy. Et tu nous fais l'honneur de ta présence ce matin. François, c'est aussi un ami personnel très cher et on a collaboré pendant un an. François, ça a été mon maître de stage, donc j'ai un peu la pression quand tu viens parce que voilà, j'ai l'impression d'être évalué en permanence quand tu es là. Non, c'est pas vrai, on a des super souvenirs ensemble et on va simplement lire. Est-ce que c'est possible de mettre le PowerPoint? Donc voilà, vous voyez le titre du message et puis est-ce que tu peux mettre le texte? Je vais vous lire ces quelques versets dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir, sinon le texte est affiché à l'écran. C'est donc 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant lire le texte, ensuite je vais prier et après je te laisserai la parole, François. J'attends que vous trouviez le texte. J'entends encore des pages de Bible qui se tournent, donc allez-y. Magnifique. Je lis donc 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, ressuscités pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je vais prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole, on veut te remercier pour ce passage, et on veut te demander maintenant d'éclairer ce passage par ton esprit, et par ton esprit à travers François qui a préparé cette prédication. Touche nos cœurs et transforme-nous au quotidien. Touche notre Église et permet que notre Église grandisse au contact de ta parole. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Voilà, salutations à tous. Content de revenir, de revoir quelques visages que je connais. Revenir dans cette église. Salutations des frères et sœurs de l'église de Abba, à Annecy. Content d'être là et de profiter de ce temps en Suisse. Je vais même aller voir un de nos fils qui se trouve à Lausanne après, dans l'après-midi. Donc voilà, ça serait une bonne occasion de passer du temps avec aussi la famille. On va parler du retour du Seigneur, vous l'avez deviné. Et j'aimerais commencer par une histoire que j'ai glanée il y a peu de temps, en fait, pour repenser à ce texte et essayer de rendre ce texte un peu plus concret et l'illustrer. C'est l'histoire de John. John, c'est le chauffeur d'un homme d'affaires chrétien qui était un fidèle témoin Christ, cet homme d'affaires. Bien souvent, il s'entretenait avec John au sujet de son âme, au sujet de la nécessité pour lui de venir à Christ, de le recevoir comme sauveur et maître. Un jour, alors qu'il parlait avec son chauffeur de l'espérance du retour de Christ, il lui dit ceci: John, quand le Seigneur reviendra, tu pourras avoir mes voitures. John exprime à son patron sa gratitude. Et puis le patron répond: tu peux aussi avoir pour toi et pour ta femme ma grande maison et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Merci monsieur, répondit John. Reconnaissant, John retourna le soir chez lui et partagea à sa femme les mots et les intentions de son patron. Tous les deux furent réjouis de ses perspectives, mais n'en mesurait pas encore toutes les implications. John et son épouse vont donc se coucher ce soir-là. Mais il n'a pas pu trouver le sommeil, ce John. Au milieu de la nuit, il partit chez son patron. Il frappa à la porte de sa grande maison. « C'est moi, John, votre chauffeur !»« Que se passe-t-il, John ? Pourquoi es-tu ici à frapper à ma porte à une telle heure ? Monsieur, je ne veux pas de votre voiture. Je ne veux pas de votre grande maison. Mais que veux-tu alors, John ? Je veux être sauvé. Être prêt pour le jour où le Seigneur reviendra. Comme vous, monsieur. Le sujet de ce matin, c'est le retour de Christ. Je ne sais pas si c'est pour vous un sujet qui vous passionne, qui est là dans vos pensées régulièrement. En tout cas, cet épître, ce passage qu'on a lu, c'est un passage souvent bien connu. Certainement que vous l'entendez régulièrement lorsque vous allez à des enterrements, n'est-ce pas ? C'est bien souvent un texte qui est lu et qui est bon à lire parce qu'il est plein de réconfort. Et d'ailleurs, dans chacun des 5 chapitres de cet épître, Paul parle de ce retour de Christ, de l'avènement du Seigneur, dans chacun des 5 chapitres. C'est bien souvent que, bien sûr, les commentateurs parlent de cet épître comme l'épître eschatologique, qui est en lien à l'avènement, au retour de Christ. Et laissez-moi vous le montrer, en glanant quelques passages dans chacun de ces chapitres. D'abord au chapitre 1, je lis versets 9 et 10, où Paul dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Deuxième passage, chapitre 2, verset 19. « Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement ? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Chapitre 3, maintenant, verset 12. « Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres, et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. » Et on est maintenant au chapitre 4, et très clairement Paul reparle ici de l'avènement du Seigneur. Il parle plus en détail de cette réalité, pour lui, du retour de Christ. C'est évident pour Paul, tout comme pour les Thessaloniciens. Ils y pensent. Ça fait partie en fait du package qui vient avec la foi en Christ, Sauveur et Seigneur, et qui revient. Est-ce que ça fait partie de votre package à vous aussi ? Est-ce une réalité attachée à votre foi en Jésus, que ce Jésus, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est parti, qui est monté au ciel, assis à la droite du Père, reviendra bientôt ? Ça fait partie de votre package ? J'ai lu aussi une autre illustration. C'est un pasteur écossais, il y a 200 ans environ, du nom de Horatius Bonnard. Voilà ce que cet homme avait l'habitude de faire et de dire chaque jour. Chaque soir, alors qu'il fermait les rideaux de sa chambre, avant d'aller se coucher, il disait ceci. « Serait-ce ce soir, Seigneur ?» Et chaque matin que Dieu faisait, alors qu'il se levait, qu'il ouvrait les rideaux de sa chambre et qu'il voyait le soleil se lever, il se disait « Il disait au Seigneur, « Serait-ce aujourd'hui, Seigneur ?» Il attendait, il s'attendait au retour glorieux de son Seigneur, à tout moment. Si vous êtes jeune dans la foi, si vous visitez peut-être ce matin cette église, laissez-moi vous donner quelques explications pour vous aider à comprendre ce que la Bible dit à propos du retour de Christ. D'abord, la Bible enseigne que Jésus est venu habiter dans ce monde, une première fois, il y a 2000 ans, le Fils de Dieu est venu fouler cette terre il y a 2000 ans. Jésus a vécu la vie parfaite que vous et moi aurions dû vivre, devrions vivre. Il a vécu à notre place. Lui, le Fils de Dieu, le Créateur. Il est mort crucifié par une mort que nous méritions à cause de nos péchés. Il l'a fait pour nous offrir le pardon de Dieu, tous nos péchés, nous offrir l'accès auprès du Père en Jésus-Christ, pour que nous puissions jouir d'une relation personnelle avec lui. La raison de la venue initiale de Jésus était pour cela précisément. Jésus est mort et 3 jours après, il est ressuscité. Puis il est monté au ciel et il a promis à tous ses disciples qu'il reviendrait. Cette seconde venue aura pour but de rassembler tous ses enfants, ceux qui auront mis leur confiance en lui et en sa promesse. Son retour sera aussi associé au jugement de tous les hommes et à l'établissement de son règne sur la terre. Toute chose sera faite nouvelle, rétablie selon l'ordre parfait du Créateur. La parole de Dieu le dit, le promet. Cela arrivera. Et ces versets que nous avons lus ce matin en témoignent et nous touchent certainement. Ce retour glorieux de Christ viendra. Alors en réfléchissant de nouveau à ce sujet, je me suis dit que bien souvent les chrétiens sont arrangés dans 3 ou 4 catégories plutôt, vis-à-vis du retour de Christ. 4 catégories, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas à la fin de ce culte. La première, ce sont les obnubilés. Vous savez, ceux qui aiment en parler sans cesse et qui aiment surtout discerner les temps et se dire « je sais quand il reviendra ». Vous les connaissez ? Peut-être qu'on en a été un. Ils aiment lire les signes des temps, prédire l'arrivée imminente de Jésus. Ils aiment mettre les pièces du puzzle ensemble, les rassembler et en voyant les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament, en disant « voilà, j'ai compris, je sais quand il reviendra ». Les obnubilés. D'autres sont arrangés sous le label du désengagement du monde. Ceux qui battent en retraite dans leur monde chrétien, dans leur bulle. Jésus revient, alors je vais l'attendre tranquillement en l'attendant. Ils vivent parfois à la marge, se retirent du monde, de la société. Un troisième groupe, d'autres chrétiens en sont encore arrangés sous le label « je n'y pense pas ». Ce n'est pas une réalité de la vie chrétienne que je vis chaque jour. On n'y pense pas, donc on n'en parle pas. Ça fait d'ailleurs si longtemps qu'il a dit qu'il reviendrait. Alors on est plus occupé à gérer ses propres affaires, notre monde, notre famille, notre travail. C'est trop abstrait, pense-t-on. Et enfin, une quatrième catégorie, ceux qui ont intégré la promesse du retour de Jésus dans leur vie de disciple. Et cela a un impact dans leur manière de vivre, de travailler, de se lever le matin ou de se coucher le soir, comme M. Bonnard. Et cela est aussi associé à l'urgence qu'ils ont dans leur cœur de partager l'Évangile dans ce monde. Dans lequel de ces 4 camps allez-vous vous ranger ? Où êtes-vous rangé ? Omnubilé, tapez 1. Désengagé, tapez 2. Ceux qui n'y pensent pas, tapez 3, ou ceux qui l'ont intégré dans leur vie chrétienne. Je ne vais pas faire un sondage, je n'ai pas les résultats sur mon application, mais je serais d'avis à dire que certainement, ici aussi, vous êtes plutôt dans la catégorie numéro 3. On n'y pense pas. Honnêtement. Ah oui, au culte, là, comme ça, ce matin, on y pense. Mais dans notre vie de tous les jours, bien souvent, on n'y pense pas, il me semble. Paul le dit clairement ici, le retour du Seigneur n'est pas un objet de notre spéculation pour savoir quand est-ce qu'il va se passer. C'est un sujet qui doit être présent dans nos pensées et qui doit avoir un impact dans notre vie présente. En fait, c'est un sujet qui devrait animer régulièrement nos discussions, notre communion fraternelle. Car le retour du Seigneur fait partie intégrante de la bonne nouvelle de Jésus. Ce n'est pas un sujet à la marge. C'est aussi l'Évangile. Jésus est venu, il est mort pour le pardon des péchés, il est ressuscité, il est monté au ciel et il reviendra. D'ailleurs, la plupart des credos, symboles des apôtres, symboles de Nicée, mentionnent ce retour de Christ. C'est capital. Je vous lis le symbole de Nicée, par exemple. On lit « Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. » Mon ambition ce matin, si vous êtes sous la troisième catégorie, c'est vous encourager à aller plutôt vers la quatrième. Voyez-vous, le retour du Seigneur fait partie de notre credo. Il doit nous encourager dans notre espérance vivante. C'est d'ailleurs ce que veut dire Paul dans notre passage, puisqu'il dit au verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Consolez-vous donc les uns les autres. Ces croyants de Thessalonique attendaient la promesse du retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Certainement qu'ils attendaient de voir Jésus revenir de leur vivant. Certains de leurs frères et sœurs étaient cependant décédés. Et Jésus n'était pas encore de retour. Et donc ils se posaient logiquement cette question, mais qu'adviendra-t-il pour eux? Que se passe-t-il pour ceux qui sont décédés et qui étaient croyants? Et Paul, dans ces 6 versets, va vouloir répondre à cette interrogation. Paul va vouloir les réconforter dans cette espérance vivante du retour de Christ. Et je vous propose ce matin de voir 5 réconforts ensemble. 5 réconforts attachés au retour de Christ pour nous aussi aujourd'hui. Le premier, Jésus reviendra dans l'espace et le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que le retour de Jésus n'est pas à prendre au sens figuré, d'une manière symbolique ou compris d'une manière spirituelle. Le retour de Jésus sera visible, glorieux, physique, et cela à un temps donné. Verset 16, « Car le Seigneur lui-même, pas un ange, pas un esprit, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » En quoi est-ce que c'est réconfortant? C'est réconfortant parce que ce Jésus, c'est celui que mon cœur attend. Ce Jésus ressuscité, c'est celui que nous verrons face à face. Car il est notre Sauveur bien réel. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une pensée, c'est une personne. C'est la personne de la Trinité. Dans 1 Corinthiens 13, verset 12, on lit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Quand Jésus reviendra, c'est comme si le brouillard se dissipera. Nous le verrons, lui, face à face. Nos questions trouveront certainement des réponses. Nos doutes disparaîtront. Notre foi sera rendue visible. Et pour couronner cela, nous serons transformés. Alléluia. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, on lit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Le voir suffira pour nous changer. Vous vous rendez compte? Nous serons semblables à lui, dit Jean. C'est génial. Et tellement réconfortant, n'est-ce pas? J'ai un scoop à vous faire. Quand il reviendra, il y aura un chant qu'on ne chantera plus. Te ressembler, Seigneur, c'est mon espoir suprême. Ou alors on le chantera un peu différemment. Te ressembler, Seigneur, c'était mon espoir suprême. Maintenant, c'est fait. Deuxième réconfort de la venue de Christ. Le réconfort que Jésus peut revenir à tout moment. C'est ce qu'on voit ici dans le début du verset 17. Je lis, « Ensuite, nous, dit Paul, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Remarquez que Paul ne dit pas « Ensuite, ceux qui sont vivants », mais il dit « nous ». En fait, Paul s'inclut ici, lui-même. Il peut revenir à tout moment. Et moi, Paul, je m'attends à ce qu'il revienne de mon vivant. Remarquez aussi que Paul ne donne pas une longue liste. Et les amis, voici tout ce qui va se passer avant que le Seigneur revienne. Parce qu'on est souvent un peu comme ça, nous aussi. On se dit, bon, il y a toute cette liste qu'on se fait, avec peut-être la parole, plus ou moins vraie d'ailleurs. Et puis on se dit, bon, comme il n'y a pas tout ça qui s'est passé, c'est bon, il ne vient pas tout de suite. Vivons la vie comme on a envie. Paul ne va pas ici corriger les croyants de Thessalonique et leur dire que Jésus ne peut pas revenir si tôt. Paul ne remet pas en question leur pensée du retour imminent de Jésus. Paul, tout comme eux, pensait que le Seigneur pouvait revenir à tout moment. Et c'est aussi ce que pensa chaque génération de chrétiens depuis ce temps-là. À tout moment. Ça fait 2000 ans environ que ça dure. Et c'est ce que nous devrions croire, nous aussi, en 2019. Et cela doit être un réconfort pour nous aussi. Et d'ailleurs, les dernières paroles de la Bible vont aussi dans ce sens. Si vous regardez dans la fin de votre Bible, Apocalypse 22, verset 20, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. » Et le cri de l'Église depuis a toujours été « Amen, viens, Seigneur Jésus. » Et le dernier verset de la Bible, « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » La parole est finie là. Jésus revient bientôt, c'est la dernière note de la Bible. Mais bien entendu, comme vous et moi, on se dit, mais 2000 ans, ça fait quand même long. Hein? 100 ans, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans. Cette définition du bientôt, elle est un peu différente. Pierre nous donne la réponse. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, on lit, mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et il poursuit. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ces 2000 ans ressemblent en fait plutôt à 2 jours pour lui. C'est pas grand-chose. La porte du salut, en tout cas, est toujours grande ouverte pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés, qui mettent leur confiance dans ce Christ mort et ressuscité. Voilà pourquoi le Seigneur a déjà patienté 2 jours, les amis. Il veut que tous soient sauvés. N'attends pas, viens à lui aujourd'hui. C'est l'invitation encore de la grâce qui nous est faite. Et on peut en être reconnaissant, n'est-ce pas? Mais très bientôt, peut-être aujourd'hui, cette porte du salut se refermera quand Christ reviendra. Dans sa gloire. Il revient bientôt. C'est une promesse. C'est un réconfort pour tous ceux qui l'ont reçu. Le troisième réconfort, c'est le réconfort que les morts en Christ ressusciteront en premier. Et là, Paul s'adresse spécifiquement à la question que se posaient ces chrétiens de Thessalonique. Qu'adviendra-t-il de ceux qui sont morts parmi nous, de nos frères et sœurs dans la foi? Paul répond ici précisément à leurs inquiétudes. Verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés ou endormis. Eux aussi iront rejoindre le Seigneur dans les airs, tout comme Jésus, leur corps de chair ressuscitera. » Alors où sont-ils maintenant ces croyants endormis? Ils sont déjà avec Christ, pas dans leur corps, mais en esprit, dit la parole. Paul dira aux Corinthiens, au chapitre 5, dans 2 Corinthiens 5, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » La parole est claire, mourir pour un chrétien, c'est quitter ce corps et c'est être déjà en esprit auprès du Seigneur. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis », a dit Jésus au brigand. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car Dieu se soucie aussi de nos corps de chair. Il nous a créés avec un corps physique, et c'est aussi ce qui nous attend quand Christ reviendra. La résurrection des corps, un corps glorieux. Verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, dit Paul. De la poussière de nos corps, Jésus en fera un nouveau corps et notre esprit rejoindra ce corps glorieux pour aller à la rencontre du Seigneur. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Les corps de ceux qui sont décédés dans la foi seront ressuscités. Ils n'étaient qu'endormis. N'est-ce pas aussi un beau réconfort? On a certainement tous ici perdu un bien-aimé, un parent, un enfant, un ami, un frère, une sœur dans la foi. Nous savons aussi que nous verrons très probablement d'autres bien-aimés s'endormir avant nous. Mais quel réconfort de savoir qu'en Christ, ils ne sont qu'endormis et que leur corps mortel attend aussi la résurrection. En tout cas, les Thessaloniciens avaient besoin d'entendre ce réconfort de la part de l'apôtre Paul. Et je pense que nous avons aussi besoin d'entendre ce réconfort de la part du Seigneur dans chacune de nos circonstances. Voyons un quatrième réconfort. C'est le réconfort que les vivants en Christ rejoindront le Seigneur. C'est notre verset 17 ici. Ensuite, nous les vivants, donc ceux, quand l'avènement du Seigneur viendra, nous qui serons encore là, vivants, sur cette terre, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est confirmé aussi dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Certains ont essayé d'imaginer à quoi cela ressemblera. Notre roi glorieux reviendra et nous qui serons restés serons changés. Nos corps vont changer, vont devenir glorieux. Et nous nous joindrons au cortège céleste, à la rencontre avec le Seigneur dans les airs. Le réconfort pour eux, c'était d'être à nouveau réunis avec leurs bien-aimés et frères en Christ. Ils sont certes plus là avec nous, mais notre espérance est qu'un jour, nous les rejoindrons. Nous serons de nouveau réunis. Je pense que les plus anciens de cette assemblée ont connu un homme qui a fréquenté ensuite l'assemblée d'Annecy, Pierre Grille. Pierre Grille, il y a plus de 20 ans, fréquentait cette assemblée. Il faisait le voyage depuis Annecy jusqu'à la Servette. Et il a été à l'initiative de l'implantation d'église à Annecy, Pierre. Pierre nous a quittés en 2017, quasiment 2 ans. Il était là donc au tout début de la naissance de l'église. Quand le Seigneur reviendra du ciel, le corps de Pierre ressuscitera. Et nous qui serons restés serons changés et ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur. Et j'imagine que l'on pourra dire « Content de te voir, Pierre. Content de te voir, mon ami. » Cinquième réconfort. C'est le réconfort que nous serons avec Christ pour toujours. Et ainsi, dit la parole, nous serons toujours avec le Seigneur. En fait, le paradis, c'est ça. C'est être et jouir de la présence de notre Dieu. Être avec lui pour toujours. Rien ne pourra là nous séparer de sa présence. Il n'y aura plus de pleurs, plus de grincements de dents, plus de péchés, plus de combats. Nous serons devant lui, face à lui. Et non pas seulement par la foi. Ceux qui connaissent les chroniques de Narnia, je peux vous donner la fin du livre, la fin de l'histoire. C'est dans le dernier chapitre, les dernières paroles, dans le chapitre « La bataille, la dernière bataille », où C.S. Lewis dit ceci. « Le rêve se termine. » Voici venu le matin, et tandis qu'ils parlaient, il ne leur apparut plus comme un lion. Mais les choses qui commencèrent à arriver ensuite furent si grandes et si belles que je suis incapable de les écrire. Et ceci est pour nous la fin de tous nos récits. Et nous pouvons dire en vérité qu'ils vécurent tous heureux à partir de ce jour. Mais pour eux, ce n'était que le début de la véritable histoire. Toute leur vie en ce monde-ci et toute leur aventure à Narnia avaient été seulement la couverture et la page de titre. Maintenant, enfin, ils commençaient le premier chapitre de la grande histoire que personne sur Terre n'a jamais lue, celle qui dure toujours et dans laquelle chaque chapitre est meilleur que le précédent. Fin de citation. Aujourd'hui, nous attendons ce réconfort d'être pour toujours avec lui. Nous attendons de vivre cette grande histoire, cette véritable histoire. Alors pour conclure, j'aimerais nous amener à ce que ces réconforts nous amènent à vivre notre vie aussi différemment. Rappelons-nous toutes ces références au retour de Jésus dans cette lettre de Paul aux Thessaloniciens. Dans chacun des 5 chapitres, Paul parle de l'avènement de Jésus. Et quand Paul en parle, ce n'est pas juste pour informer ses chrétiens de Thessalonique, et nous aussi d'une manière abstraite, comme si cette vérité n'allait pas avoir un impact dans notre vie d'aujourd'hui. Mais Paul nous en parle pour nous encourager à nous connecter à Dieu, à vivre différemment, parce que nous l'attendons. Et c'est important. Si Paul parle si souvent du retour de Christ, c'est aussi parce que cela doit avoir un impact dans notre manière de vivre aujourd'hui et dans tous les domaines de notre vie. Et si vous vous souvenez de cette lettre, des chapitres précédents et de celui qui suit, il est très pratique, Paul. Face à la perte d'un être cher, l'espérance du retour de Christ, c'est pratique. Hein? ça nous touche. On en a besoin. Je ne sais pas pour vous, mais quand parfois vous vivez un enterrement pour un frère ou une sœur, et qu'en vivant un enterrement de quelqu'un qui n'a pas l'espérance de Christ, le contraste est saisissant. J'ai envie de dire désespérant même. De voir des hommes, des femmes qui meurent sans l'espérance de Christ et du retour de Christ. Les chrétiens n'enterrent pas leurs morts de la même manière que les non-chrétiens. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 11, Paul les encourage là, à travailler pour prendre soin les uns des autres. Et son argument est le suivant, parce que Jésus revient bientôt. Un peu plus tôt, au chapitre 4, Paul les encourageait à vivre une vie pure et sainte, dans leur sexualité aussi. Ce que le Seigneur veut, c'est votre sanctification, une vie qui témoigne de la transformation de Christ en vous. Pourquoi ? Parce que le Seigneur revient bientôt. Au chapitre 3, verset 12, Paul les encourageait à ce que l'amour grandisse de plus en plus. Pourquoi ? Parce que Jésus revient bientôt. Au chapitre 1, Paul les encourageait dans leur proclamation à témoigner de la bonne nouvelle de Christ dans leur région, afin que la bonne nouvelle soit annoncée partout. Pourquoi ? Parce que Jésus revient bientôt. Vous voyez, l'attente du retour de Christ nourrit notre manière de vivre. Dès maintenant. C'est très pratique en fait. Elle oriente complètement ma manière de vivre aujourd'hui en tant que disciple de Jésus. Alors en quoi le réconfort du retour de Christ va impacter ta vie aujourd'hui ? Et demain ? Et cette semaine qui arrive ? Quel doit être aussi l'impact pour toi dans les domaines pratiques de ta vie ? Dans ton travail ? Dans ton chemin de sanctification, à vivre la pureté ? Dans ton témoignage, dans l'amour de ton prochain ? Dans le partage de la bonne nouvelle de Jésus, cette semaine ? Peut-être que tu pourras te souvenir de cet homme écossais, Horatius Bonnard. Et ce soir, quand tu fermeras les rideaux, tu diras peut-être, serait-ce ce soir, Seigneur ? Et demain matin, quand tu ouvriras les rideaux, peut-être, serait-ce aujourd'hui, Seigneur ? Je propose de prier. Seigneur, nous confessons bien souvent notre inconséquence pratique face à ce retour que tu as promis. Nous sommes si oublieux. Parfois, nous vivons comme si tu n'allais pas revenir. Certes, nous vivons une relation avec toi, nous te confessons comme Seigneur et Sauveur, mais nous n'intégrons pas ce retour imminent de Christ. Que Seigneur, cette vérité puisse saisir nos cœurs, nos vies, notre manière d'agir, de nous comporter dans ce monde, nos priorités. Seigneur, reviens bientôt. C'est le cri de nos cœurs. Que Seigneur, ton retour soit aussi un réconfort. Un réconfort face à la mort que nous voyons autour de nous, frapper, et frapper même nos bien-aimés. Mais Seigneur, notre espérance, c'est que tu reviens à bientôt. Tu nous transformeras, tu nous changeras, et nous serons avec toi pour toujours. Merci pour tous ces beaux chapitres qui nous attendent. Cette histoire magnifique, cette rencontre face à face avec toi. Seigneur, remplis nos cœurs de cette espérance vivante, pour la gloire de ton nom. Amen.